j'aimerais lire jusqu'au verset 9, inclusivement. Hébreux 2, verset 1. C'est pourquoi nous devons porter une plus grande attention aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne nous écartions. Car si la parole prononcée par les anges a été ferme, et si toute transgression et désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut qui, ayant commencé par être annoncé par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'avaient entendu, Dieu rendant témoignage avec eux par des signes et des prodiges et par divers miracles et distributions de l'Esprit Saint selon sa propre volonté. Car ce n'est point aux anges qu'il a assujetti le monde habité à venir dont nous parlons, mais quelqu'un a rendu ce témoignage quelque part, disant, « Qu'est-ce que l'homme que tu te souviens, que tu te souviennes de lui, ou le fils de l'homme que tu lui visites, tu l'as fait un peu moindre que les anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur, et l'as établi sur les œuvres de tes mains. Tu as assujetti toutes choses sous ses pieds, car en lui assujettissant toutes choses, il n'a rien laissé qui ne lui soit assujetti. Maintenant, nous ne voyons pas encore que toutes choses lui soient assujetties, mais nous voyons Jésus, qui a été fait un peu moindre que les anges à cause de la passion de la mort, couronné de gloire et d'honneur, en sorte que par la grâce de Dieu, il goûta la mort pour tout. Jusqu'ici. La dernière fois, ou les deux dernières fois, nous avons vu les splendeurs du Fils de Dieu, au chapitre 1er. Nous avons vu aussi comment il est maintenant au ciel, et Dieu lui a donné une place d'honneur. Chapitre 1, verset 3, « Il s'est assis à la droite de la majesté dans les hauts lieux. » Et là, nous avons vu aussi sa déité. Donc, c'est un tableau merveilleux de ses beautés. Et la dernière fois, on a vu, c'est 7 points qu'il est plus grand, plus élevé que les anges. Quel est le lien avec chapitre 2? Le lien, j'aimerais suggérer, c'est le verset 5. Chapitre 2, verset 5. « Car ce n'est point aux anges qu'il a assujetti le monde habité à venir. » Et on se rappelle, on a parlé beaucoup des anges au premier chapitre. Donc il y a un lien entre ces deux chapitres. Quelle est la différence? Le premier chapitre souligne la grandeur du Seigneur Jésus comme Fils de Dieu. Tantôt, on va comparer le psaume 2 avec le psaume 8, mais je le mentionne maintenant comme ça. Ça implique aussi qu'il est le Fils éternel, mais l'emphase est sur le fait qu'il est le Fils de Dieu. Et là, comme on voit aussi dans l'évangile de Luc, l'emphase est encore sur son humanité. Quoi qu'il soit en même temps, Dieu bénit sur toute chose. Mais l'emphase est sur son humanité. Mais dans chapitre 2, il est présenté comme fils de l'homme. C'est quoi la différence? Comme fils de l'homme, il est lié à toute l'humanité. Il est un homme, quoi qu'il soit Dieu lui-même, béni sur toute chose, il est, par son humanité, lié à toute l'humanité. Et la prochaine fois, Dieu voulant, on verra 7 points qui nous montrent le lien que le Saint Jésus a comme fils de l'homme avec nous. Sur la base de l'œuvre accomplie, ça c'est encore un autre point qu'on va voir. Mais l'humanité du Seigneur Jésus est soulignée au chapitre 2, et qu'il a aussi comme fils de l'homme la première place. Il faut qu'il ait toujours la première place. même s'il est présenté ici comme cet humble fils de l'homme. On va voir au psaume 8 encore quelques détails de son humilité, comment il s'est humilié. Un autre contraste, chapitre 1er, parle de la gloire actuelle du Seigneur Jésus. Chapitre 2, le verset qu'on a lu, nous parle surtout de sa gloire dans le monde à venir, verset 5 encore, le monde habité à venir. Ce qui m'a aidé, c'est la chose suivante. On pourrait comparer Hébreu 1 avec Genèse 1. Là, on voit Dieu comme créateur et Adam. On pourrait comparer Hébreu 2 avec Genèse 2. Et là, nous voyons Adam ensemble avec Ève. Et ainsi, dans le chapitre 2, nous verrons des liens précieux entre le Seigneur Jésus, le vrai Adam, et nous. Maintenant, peut-être il y aura d'autres détails pour comparer les deux chapitres. J'aimerais simplement commencer par le premier verset. C'est pourquoi nous devons porter une plus grande attention. Ici, l'auteur s'interrompt. Il a donné une présentation des beautés du Seigneur Jésus, au premier chapitre, et maintenant, c'est comme une mise à point. Et on verra dans cet épître cinq parenthèses. Dans une parenthèse, l'auteur s'interrompt pour deux choses. Pour expliquer son intention, donc le but qu'il a en écrivant ces mots, donc pour donner son intention. Deuxièmement, pour appliquer pratiquement les choses qu'il a présentées aux croyants. Et on se rappelle, en première instance, c'était les chrétiens juifs, les chrétiens hébreux à Jérusalem à ce moment-là. Et deuxième ligne, c'est une application à nous. Donc les parenthèses soulignent l'intention de l'auteur et donnent l'application actuelle de la vérité. Donc l'effet de cette vérité, ou l'effet que cette vérité devrait avoir sur les auditeurs. J'ai dit auditeurs parce qu'on se rappelle, cet épître est aussi comme un serment, un long serment. Et j'aime toujours comparer cela avec le psaume 45. L'auteur, l'apôtre Paul, il avait, sa langue était le style d'un écrivain habile du Saint-Esprit pour présenter les beautés de Christ. Et ainsi, il parle, vous voyez, il le dit aussi au verset 5, le monde habité à venir dont nous parlons. Donc il parle, il s'adresse aux croyants à Jérusalem. Mais il est le porte-parole de quelqu'un d'autre qui parle. Parce que c'est Dieu qui parle. Et on a vu cela au premier chapitre. Dieu a parlé dans le passé, au premier verset, mais à la fin des temps, il nous a parlé en Fils. Donc c'est Dieu lui-même qui parle. Et il continue à parler. On verra cela aussi au chapitre 12. Mais Dieu a un porte-parole, et c'est l'apôtre Paul, l'auteur de cette épître, qui parle ici. Donc, je mentionne cela, il y a cinq parenthèses pour vous rappeler, le nombre 5 souligne la responsabilité de l'homme. On a cinq doigts, le nombre 5 souligne la responsabilité. Et on verra que les dangers sont très urgents et très actuels pour les croyants à ce moment-là, mais pour nous aussi. Donc, il demande une attention spéciale. Il dit au verset 1, « Nous devons porter une plus grande attention aux choses que nous avons entendues. » De nouveau, on a vu déjà la dernière fois, l'auteur se place à côté des auditeurs, des juifs chrétiens auxquels il s'adresse. Il se place à côté. Il ne se place pas au-dessus d'eux. Il ne se présente pas comme meilleur que eux. Non, il se place à côté d'eux, réalisant aussi sa responsabilité. C'est quoi le danger de peur que nous ne nous écartions? On verra au fur et à mesure de cet épître que les dangers seront de plus en plus grands. Ici, c'est une indication qu'on soit pris par le courant. Le mot veut dire écarté, veut dire dans l'original qu'on est pris par le courant d'eau. Et puis on va en bas. Le danger pour les juifs chrétiens à ce moment-là était de retourner dans le temple et s'impliquer à nouveau dans le système judaïque et ainsi couler avec le courant. Tandis que cet épître a été donné par l'Esprit de Dieu pour des vainqueurs qui montent contre le courant, vous voyez? Et là, vous comprenez tout de suite aussi l'actualité pour nous aujourd'hui. Le danger est toujours qu'on va avec le courant en bas. Mais l'Esprit de Dieu veut nous encourager et nous fortifier pour que nous puissions monter contre le courant. Ensuite, au deuxième verset, il dit, « Car si la parole prononcée par les anges a été ferme, et là, il réfère donc à la loi qui a été donnée par l'entremise des anges. Je mentionne cela pour que vous puissiez voir l'autorité des anges, la grandeur des anges. Dieu s'est servi des anges pour transmettre la loi. Galates 3, verset 17, le mentionne. Et Étienne, dans son discours, dans Actes 7, 53, il mentionne aussi que la loi a été donnée par l'entremise des anges. Donc pour souligner le rôle important des anges. Et ainsi, cette parole a été ferme. Ça, c'est donc par rapport à la loi de Moïse. Il dit, si toute transgression et désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Aujourd'hui, nous vivons dans le temps de la grâce. Et nous avons, quelle que soit la tendance, de dire, ok, mais nous sommes dans le temps de la grâce, et la tendance est de prendre les choses moins sérieuses que sous la loi de Moïse. Ça devrait être l'inverse. Sous la loi de Moïse, déjà, la parole était ferme et toute transgression a trouvé une juste rétribution. Et la grâce ne met pas de côté le gouvernement de Dieu. Le gouvernement de Dieu est toujours là. Galates 6, verset 8 dit, celui qui sème pour la chair va récolter pour la chair. Il dit un peu avec mon propre mot. Il souligne, Paul souligne là, l'importance du gouvernement de Dieu. Et nous qui sommes sous la grâce, qui sommes sous la loi de Christ, Galates 6, nous ne devons pas mépriser le gouvernement de Dieu non plus. Maintenant, ce grand salut, c'est vraiment une très belle expression. Vous savez, le mot salut veut dire être délivré des forces hostiles et adverses. Et ce mot salut se trouve 7 fois dans cette épître. Ça m'a frappé. Et le nombre 7 nous parle de la perfection. Et ainsi, on trouve 7 fois le mot salut dans cette épître. Ici, c'est la deuxième fois. On a vu cela au premier chapitre, verset 14, que les anges sont maintenant des esprits administrateurs envoyés pour servir en faveur de ceux qui vont hériter du salut. Là, c'est le salut futur. Nous allons hériter le salut. Donc ça, c'est l'aspect futur du salut. Mais ici, chapitre 2, verset 3, c'est l'aspect présent du salut. C'est un salut que nous avons actuellement. Et c'est un grand salut. Et nous ne devons pas négliger ce grand salut. Pour les Juifs, je répète, les Hébreux, les chrétiens hébreux, le danger était de retourner dans le judaïsme. Et en retournant dans le judaïsme, ils auraient méprisé et négligé ce grand salut. placés sur la base, ils se seraient placés sur la base des œuvres selon la loi. Et là, ce serait toute une déviation. Mais nous pouvons faire ça aussi. Romains 7, par exemple, et d'autres passages nous montrent le danger que nous pouvons aussi négliger ce grand salut en nous plaçant sur la base de nos propres œuvres pour mériter quelque chose, vous voyez. Les œuvres sont importantes, mais comme résultat du salut. Donc, on verra encore d'autres aspects du salut. Je m'en sors maintenant seulement verset 10 du même chapitre. Il convenait par, pour lui, à cause de qui sont toutes choses et par qui sont toutes choses, que, amenant plusieurs fils à la gloire, il consomma le chef de leur salut. Ici, nous voyons le salut lié au chef du salut. C'est le Seigneur Jésus qui a organisé tout ça. C'est lui qui a effectué tout cela. Il est le chef de notre salut. Et on verra que c'était par ses souffrances qu'il a implémenter tout cela. Pour revenir maintenant au verset 3, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? C'est comme un appel. Et on verra plusieurs fois un appel direct aux auditeurs pour réaliser l'importance de nos bénédictions et de ne pas dévier. Maintenant, il ajoute 5 points. Excusez-moi, je vais être précis. Plusieurs points. D'abord 3, ensuite 5. Je vais juste répéter cela. Ce salut a été commencé par être annoncé par le Seigneur. Quand est-ce que le Seigneur Jésus a annoncé ce salut? Je pense que ça réfère aux évangiles. Mais nous voyons aussi que c'est immédiatement lié à Christ dans la gloire. Parce que de la gloire, il a annoncé le salut. Et les Juifs, dans Actes 1 à 7, comme nation, ils ont rejeté ce salut. Donc, moi personnellement, j'aurais la tendance de souligner surtout cet aspect-là. Pourquoi? Parce que dans cet épître, nous voyons déjà Christ dans la gloire. Et de la gloire, il a envoyé ce message du salut. Et les Juifs ont rejeté ce message. Mais on peut aussi penser aux évangiles où nous voyons le salut annoncé par le Seigneur. D'ailleurs, le Seigneur est appelé plusieurs fois dans cet épître le Seigneur. C'est important de voir ça aussi, parce que ce mot implique son humanité et sa déité à la fois. Le mot qui est utilisé ici est le même mot qu'on trouve dans la traduction grecque du mot Yahvé ou Jéhovah dans l'Ancien Testament. Donc ce nom souligne son autorité et qu'il est en même temps Dieu béni sur toutes choses et son autorité comme Seigneur. Le deuxième point, donc le salut a été annoncé par le Seigneur lui-même. Ça c'est le premier point par rapport au salut. Le deuxième point, ce salut a été confirmé. Ce salut a été confirmé par ceux qui l'avaient entendu. Vous voyez ce deuxième point? C'est donc, premièrement, les apôtres qui étaient avec le Seigneur Jésus. Le Seigneur leur a donné une grâce importante. Jean 20, par exemple, Luc 24, confirmé aussi dans Actes 1. Et ce mot confirmé, c'est beau de voir ça. C'est un mot qu'on retrouve, un verbe qu'on retrouve 7 fois dans le Nouveau Testament. Et je donne un exemple. Ici, il est dit que ce grand salut a été annoncé par le Seigneur, ensuite confirmé. Mais dans Marc 16, nous voyons aussi que le Seigneur Jésus lui-même a confirmé dans la gloire. Okay? Acte 16, verset 20, Christ a confirmé ce message par les miracles. Mais ici, la pensée, c'est que les disciples ou les apôtres ont confirmé ce que le Seigneur Jésus avait déjà annoncé. Okay? Et ainsi, ce mot souligne donc une base sentir ferme. La parole des anges était ferme par rapport à la loi de Moïse, mais la parole du grand salut est encore plus ferme, annoncée par le Seigneur lui-même, confirmée par ceux qui l'avaient entendu. Et cette fermeté est encore soulignée par un troisième point. Dieu rendant témoignage. C'est Dieu qui a rendu témoignage. Et dans l'original, l'emphase est sur le fait que cela a été le cas dans le passé. Nous voyons au début des actes que Dieu a rendu témoignage par, et maintenant c'est donné les cinq points que je mentionnais tantôt, les cinq points viennent maintenant au verset 4. Donc on a un si grand salut annoncé par le Seigneur, confirmé par ceux qui l'avaient entendu, et Dieu a rendu témoignage. Et maintenant, ce témoignage, on verra dans cinq points. Comment Dieu a rendu témoignage? D'abord, il est souligné avec eux. Donc, Dieu s'est identifié avec les apôtres. Dieu s'est identifié avec Christ. Dieu a glorifié Christ et Dieu l'a reçu. Il l'a salué dans la gloire. Mais Dieu s'est identifié aussi avec les apôtres sur la terre. Et il y a un très beau verset dans Acte 2, verset 22. Qui nous souligne cela. Acte 2, verset 22. Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus le Nazaréen, homme approuvé de Dieu auprès de vous par les miracles et les prodiges et les signes que Dieu a fait par lui au milieu de vous, comme vous-même vous le savez. Ici, nous voyons donc comment Dieu a confirmé le message du Seigneur Jésus sur la terre, lorsqu'il était encore sur la terre. Et on peut lier cela à ce qu'on a vu dans Hébreux 2, verset 3, ayant commencé par être annoncé par le Seigneur. Mais de la même façon, comme Dieu a confirmé ce message du Seigneur Jésus sur la terre, de la même façon, il confirme maintenant ce message de la gloire. Mais le point qu'on doit souligner ici, c'est que cela a eu lieu dans le passé. Dieu rendant témoignage avec eux, ça réfère au livre des actes, et surtout le début des actes, où nous voyons ces prodiges, ces miracles faits par les apôtres. Un peu plus loin, donc chapitre 4, chapitre 5, nous voyons les mêmes expressions par rapport aux apôtres. Les mêmes expressions sont utilisées ici pour le Seigneur, Acte 2, verset 22, et les mêmes expressions sont utilisées un peu plus tard par rapport aux apôtres. Par exemple, 3, verset 13, le Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob, le Dieu... Non, un peu plus loin. En tout cas, je ne voulais pas prendre trop de temps, mais en lisant ces premiers chapitres des actes, nous voyons comment Dieu a confirmé par des signes, par des miracles, ce message. Et Dieu était donc avec les apôtres. Il a confirmé leurs paroles, il a rendu témoignage avec eux. Et c'est beau de voir, je réfère Marc 16, verset 20, le Seigneur dans la gloire, il a coopéré avec les disciples. Donc Christ dans la gloire, comme homme, a coopéré, mais ici l'emphase est sur Dieu. Dieu a coopéré, Dieu a rendu témoignage avec eux. Maintenant, ces cinq points, par des signes. Un signe confirme quelque chose, donne une indication, une direction. Par exemple, nous avons sept signes dans dans l'évangile de Jean, avant la mort du Seigneur Jésus. Sept signes qui signifient quelque chose, qui donnent une signification à cette œuvre qu'il a faite. Le deuxième mot, prodige, c'est un aspect spectaculaire. Et vous comprenez déjà, Dieu ne répète pas ces actes spectaculaires tout le temps. C'était pour introduire une nouvelle dispensation. Le troisième mot, la troisième expression, divers miracles. Dans l'original, ça veut dire divers puissances. Ici, c'est donc la puissance de l'Esprit, la puissance aussi de la part de Christ dans la gloire qui a opéré par les apôtres, comme dans Acte 4, verset 30. J'ai retrouvé la référence, Acte 4, verset 30, vous voyez les trois expressions par rapport aux apôtres, et aussi dans d'autres textes, d'autres versets. La quatrième expression, distribution de l'Esprit Saint. L'Esprit a été très actif. On voit cela déjà dans Acte 2 et dans tout le livre des Actes, mais c'est expliqué d'une façon doctrinale dans 1 Corinthiens 12. C'est l'Esprit qui distribue. Dans Éphésiens 4, c'est Christ dans la gloire qui distribue ses distributions. Et c'est beau de voir, ici c'est donc Dieu qui donne cette distribution de l'Esprit. Et le cinquième point, selon sa propre volonté, c'est important. Aujourd'hui, il y a des gens qui veulent des signes, des prodiges, des miracles et des distributions de l'Esprit, mais c'est selon leur volonté. Ici, c'est selon la volonté de Dieu. Et deuxièmement, si on comprend le contexte, ici l'auteur, l'année 65 à peu près, il réfère à ces événements comme étant des événements du passé. Il faut comprendre ça. Donc ça veut dire à ce moment-là, les miracles et les signes, les prodiges avaient déjà cessé. Ça ne veut pas dire que Dieu ne peut pas opérer des miracles, on ne dit pas ça. Dieu est souverain. Mais d'une façon, pour introduire une nouvelle dispensation, ces signes ont arrêté. Maintenant, verset 5. Donc on commence maintenant cette nouvelle section qui nous parle du Fils de l'homme. On a eu donc une parenthèse, verset 1 à 4, c'est comme une parenthèse qui souligne notre responsabilité, qui souligne l'intention de l'apôtre, de l'auteur, pour rafraîchir, pour fortifier, pour édifier les croyants. Mais maintenant, il parle de nouveau du Seigneur Jésus. Mais ici, il nous parle du Seigneur Jésus comme étant le Fils de l'homme. Il dit, car ce n'est point aux anges qu'il a assujetti le monde habité. Avenir. Donc, on a souligné déjà, chapitre 1er parle de l'autorité du Seigneur Jésus, sa gloire actuelle. Ici, dans ce contexte, il nous parle du monde habité à venir, qui sera soumis au Seigneur Jésus. Pourquoi? Le même monde où le Seigneur Jésus a été rejeté, où le Seigneur Jésus a été crucifié, ce même monde va l'honorer. C'est ça la pensée de Dieu. Donc je répète encore une fois, cette terre qui a crucifié le Seigneur Jésus, cette même terre va l'honorer. C'est ça la pensée du verset 5 ici. Et le verset suivant. Le monde habité à venir sera assujetti à lui. Ils l'ont rejeté, ils l'ont dit, on ne le veut pas, mais tout ce monde sera assujetti. Le mot qui est utilisé ici implique aussi la pensée d'une maison. Le monde est vu ici comme une grande maison. Et ainsi, dans le monde à venir, le millénium, toute la terre sera comme une grande maison où Dieu peut habiter. Aujourd'hui, Dieu habite dans l'Église, par l'Esprit, Éphésiens 2 par exemple. Mais là, Dieu va trouver sa maison sur toute la terre. Et l'auteur revient plusieurs fois à ce monde à venir, en contraste aussi avec le monde actuel. Je souligne encore dont nous parlons, on a vu cela. Il parle ici avec ce style d'un écrivain habile, dirigé par l'Esprit Saint, pour présenter les beautés du Seigneur Jésus. Mais quelqu'un a rendu ce témoignage quelque part. Pourquoi il parle ainsi? Ce n'est pas tout à fait clair pour moi, mais nous voyons que c'est une référence au psaume 8. Et ça vaut la peine de comparer cela brièvement. D'abord, le psaume 2, j'ai dit déjà, le psaume 2 va parallèle avec Hébreux 1, parce que le psaume 2 nous parle du Messie qui est appelé par Dieu « Tu es mon fils ». La même pensée revient dans Hébreux 1. Donc, psaume 2, verset 7, « L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré. » On a vu cela dans Hébreux 1. Oui. Ensuite, le Messie, qui est en même temps appelé mon fils, le fils de Dieu. Mais, lorsqu'on voit les psaumes qui suivent, on voit que le Messie est rejeté. Psaume 3, on parle d'Absalom, et vous savez qu'Absalom a essayé de tuer son propre père, le roi selon le cœur de Dieu. Ainsi, le peuple juif va suivre l'Antichrist bientôt, et ils seront contre le vrai Messie. Ils vont suivre un homme selon leur propre désir. Et ce procédé, ce processus est décrit dans les psaumes qui suivent, inclusivement le psaume 7. Et puis après cela, donc après ce rejet du Messie, qu'est-ce qu'on voit? Psaume 8. Là, Dieu introduit le Fils de l'homme. Dieu introduit le Fils de l'homme. Verset 4, « Qu'est-ce que l'homme que tu te souviens de lui ?» Ici, l'homme est Enoch, donc l'homme faible, l'homme même pécheur, l'homme faible, comme Enoch dans Genèse 4. Mais le Seigneur Jésus a pris la place d'un homme, mais sans péché. Il est aussi le fils de l'homme au verset 4. Donc on voit les deux expressions, l'homme Enoch, verset 4, le fils de l'homme, le fils d'Adam. Le Seigneur Jésus est le vrai fils de l'homme. Et nous trouvons cela, par exemple, dans Daniel 7. Dans Daniel 7, nous voyons le Dieu sur le trône, l'ancien des jours, et là, un jour, un moment donné, le fils de l'homme entre. Ça vaut la peine d'étudier Daniel 7. Et là, on voit ce fils de l'homme. Et Dieu lui donne toute autorité. Et en même temps, dans le chapitre Daniel 7, nous voyons que le fils de l'homme est appelé aussi l'ancien des jours. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu lui-même. C'est un mystère. Donc, ici, nous voyons le psaume 8, le fils de l'homme, et Dieu va soumettre à lui toute la terre. Premier verset, tu as mis ta majesté au-dessus des cieux, mais un peu plus loin, nous voyons qu'il a mis tout cela, verset 6, tu as mis toutes choses sous ses pieds, sous les pieds du Fils de l'homme. C'est ça le point à saisir. Maintenant, on revient à Hébreux 2. Donc, Dieu introduit le Fils de l'homme après qu'il soit rejeté comme Messie. Et ça m'a fait penser à Jean, premier chapitre. Dans Jean, l'évangile de Jean, le premier chapitre, nous voyons comment le Seigneur Jésus est introduit. C'est très beau de voir ça. Dans ces 7 points. Mais je souligne maintenant seulement ce point-là. Les disciples ont dit, par exemple, Jean 1, verset 42, nous avons trouvé le Messie. Ça, c'est le Messie du psaume 2. Vous comprenez mon point? Le Messie du psaume 2. Les disciples ont compris le Seigneur Jésus était le Messie. Et à la fin de Jean 31, nous lisons, ces choses sont écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ. Les Juifs rejetaient le fait qu'il était le Messie. Mais mon point maintenant, Jean 1 va encore un peu plus loin. Lorsque le Seigneur rencontre Nathanaël, Nathanaël dit, au verset 50, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. C'est encore le psaume 2, comme nous avons vu. Tu es mon fils. Mais là, notons bien maintenant, verset 51, Jésus répondit et lui dit, parce que je t'ai dit que je te voyais sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Il lui dit, en vérité, je vous dis, désormais vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu montant et descendant sur le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme va régner sur tout l'univers. Tout l'univers, son vide, sera soumis à ses pieds. Maintenant, on revient à Hébreux 2. On voit ici donc le Seigneur Jésus comme étant le Fils de l'homme. C'est pour souligner son humanité. Ce n'est pas qu'il a adopté une apparence humaine pour apparaître aux hommes. Donc, il est devenu homme. La parole est devenue chair. Jean 1, verset 14. Il est devenu homme. Complètement, parfaitement. Et le nom, le Fils de l'homme, est pour souligner cela. Un homme, comme tous les autres, à part le péché. On doit toujours souligner cela. Deuxièmement, comme étant le Fils de l'homme, il est lié à toute l'humanité. Et lorsque le Seigneur Jésus se présente comme le Fils de l'homme, par exemple dans Luc, il montre en même temps que la grâce de Dieu, qui est introduite par le Fils de l'homme, est là donc pour toute l'humanité. Le Fils de l'homme n'est pas seulement venu pour Israël. S'il était seulement venu comme Messie, cela aurait été limité à Israël. Mais il est venu comme le Fils de l'homme aussi, et comme Fils de l'homme, il est venu pour toute l'humanité. Mais il y a encore une autre raison pour laquelle il est introduit ici comme Fils de l'homme. Et c'est ça qu'on va voir maintenant. Comme Fils de l'homme, il pouvait mourir. Il pouvait souffrir et mourir. Comme Dieu, il ne pouvait jamais mourir. Et là, on va voir encore une différence avec les anges. Donc ça vaut la peine d'étudier les passages dans l'Ancien Testament qui nous parle du Fils de l'homme. Psaume 8, Daniel 7, aussi le psaume 80 qui nous parle de cela. C'est pour souligner son règne universel. Et lorsque les Juifs de Sanhédrin, Matthieu 26 par exemple, 27, ils ont rejeté le Seigneur Jésus, le Seigneur parle au souverain sacrificateur que le Fils de l'homme va venir, le Fils de l'homme va apparaître, il va régner, malgré le fait que les Juifs l'ont rejeté. Et déjà l'ange a dit à Marie dans Luc 1, il sera grand, comme homme aussi. Il sera grand. Et ça, c'est souligné par le fait qu'il était le Fils de l'homme. Mais le Fils de l'homme s'est humilié. Philippiens 2, nous voyons ces sept étapes de son humiliation. C'est très beau d'étudier cela dans Philippiens 2. Mais Dieu l'a hautement élevé. Et ces deux pensées vont revenir aussi dans cette épître, dans ce passage. Le Fils de l'homme va régner, mais c'est parce qu'il s'est humilié d'abord. Maintenant, un contraste avec le premier Adam. J'ai dit tantôt, le Seigneur Jésus est le second Adam. Le premier Adam, il y a donc des parallèles avec le Seigneur Jésus et Adam. Chef d'une famille, le premier Adam est chef de toute l'humanité. Le Seigneur Jésus, le chef d'une nouvelle race. Dans ce sens-là, il y a un parallèle entre les deux Adam. Mais il y a aussi un grand contraste. Adam s'est élevé lui-même. Il a transgressé. Et l'Antéchrist, que je mentionnais tantôt déjà, l'Antéchrist, un descendant du premier Adam, il va se manifester dans le temple de Dieu comme étant Dieu lui-même. Il va s'élever. Ça, c'est l'homme comme descendant du premier Adam. Mais le Seigneur Jésus, il s'est humilié. Verset 7, tu l'as fait un peu moindre que les anges. C'est dans le passé que Dieu l'a fait un peu moindre que les anges. En prenant une place parmi les hommes, le Seigneur Jésus a pris une place moindre que les anges. On voit cela par exemple. Par le fait que le Seigneur Jésus a pris une place comme homme, il était sous les anges. Pourquoi? Parce que les anges, selon l'ordre de la création, sont plus élevés que les êtres humains. Ainsi, le Seigneur Jésus a pris donc une place au-dessus des anges. Non, au-dessous des anges. Mais, pas seulement en prenant cette place comme homme, ici dans le contexte, nous voyons qu'il a fait cela pour encore s'humilier plus loin, pour prendre une place plus basse encore par rapport aux souffrances. Le deuxième point qu'on voit ici au verset 7, tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Ça, c'est présentement. Et on va revenir à ça au verset 9. Nous voyons Jésus qui a été fait un peu moindre que les anges à cause de la passion de la mort, couronné de gloire et d'honneur. Donc, verset 7 est une citation du psaume 8, mais c'est expliqué en détail un peu plus loin. Mais je résume maintenant ces trois points. Le passé, tu l'as fait un peu moindre que les anges. Le présent, couronné de gloire et d'honneur. Le futur, tu l'as établi sur les œuvres de tes mains. Ça, c'est par rapport au futur, le monde à venir. Verset 8, tu as assujetti toutes choses sous ses pieds. Et puis là, la citation termine, et puis l'auteur continue au verset 8, au milieu du verset 8. Car en lui assujettissant toutes choses, il n'a rien laissé qui ne lui soit assujetti. C'est beau de voir dans Jean 3, par exemple. Jean 3, verset 35, le Père a donné toutes choses au Fils. Le Seigneur répète cela plusieurs fois dans Jean, que Dieu lui a donné toutes choses entre ses mains. Par exemple, chapitre 14, verset 3. Mais ainsi, le Seigneur Jésus va régner sur toutes choses dans le monde à venir. Et Dieu n'a rien laissé qui ne lui soit pas utilisé. Pourtant, il y a deux exceptions qui ne sont pas mentionnées ici, mais que j'aimerais mentionner quand même. La première exception, c'est Dieu lui-même, évidemment. C'est Dieu qui, lui, a assujetti toutes choses, donc Dieu lui-même est excepté. Et cette exception est donnée dans 1 Corinthiens 15, versets 20 à 28. Vous voyez que le Fils de l'homme sera soumis à Dieu qui lui a assujetti toutes choses. L'autre exception, c'est l'Église. En lisant Éphésiens 1, vous verrez, c'est peut-être qu'on peut juste le faire, juste pour voir ce point-là. Donc, je répète, juste avoir le contexte, Hébreux 2 cite le psaume 8. Le psaume 8 dit, tu lui as assujetti toutes choses. Maintenant, je dis, il y a deux exceptions. Première exception, Dieu lui-même. Deuxième exception, l'Église. Éphésiens 1, verset 22, c'est encore cette citation du psaume 8, il a assujetti toutes choses sous ses pieds et l'a donné pour être chef sur toutes choses à l'assemblée qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc qu'est-ce que ce verset dit? Le Seigneur est chef sur toutes choses, donc tout lui est assujetti. Mais ainsi Dieu l'a donné à l'Église. Donc ça veut dire que l'Église ici, dans ce contexte-là, n'est pas assujettie. L'Église doit être soumise à son époux Éphésiens 5. Mais dans ce contexte qu'on voit ici, le Seigneur Jésus qui règne, qui va régner dans le monde à venir, où tout sera assujetti sous ses pieds, là, l'épouse sera à côté de lui. L'épouse sera à côté du Seigneur Jésus. Elle ne sera pas assujettie à ses pieds, pas du tout. Elle sera à côté de lui. Elle va régner avec lui. C'est ça la deuxième exception. Maintenant, on revient à Hébreux 2, verset 8, au milieu. Mais maintenant, nous ne voyons pas encore que toute chose lui soit assujettie. Nous ne le voyons pas encore. Donc je répète, c'est clair aussi dans le Nouveau Testament que toutes choses lui sont assujetties. 1 Pierre 3, verset 22, il dit, toutes les choses sur la terre et dans les cieux, même les anges, lui sont assujetties. Le Seigneur l'a dit lui-même, Matthieu 28, après sa résurrection, toute autorité m'a été donnée, dans les cieux et sur la terre. Donc tout a été assujetti à lui, de la part de Dieu. Mais l'auteur dit ici, nous ne voyons pas cela encore. Ce sera pour le monde à venir. Son mythe souligne cela. La rencontre avec Nathanaël souligne cela. Ce temps n'est pas encore venu. Philippiens 3, verset 21, c'est un beau verset qui nous dit que le Seigneur Jésus va exercer cette puissance énorme. Il a la puissance d'assujettir toutes choses et il va utiliser cette puissance pour changer nos corps, pour transformer nos corps, pour nous donner des corps semblables à lui, son corps glorieux. Philippiens 3, verset 21. Donc il va utiliser cette puissance aussi en notre faveur, mais pas pour nous soumettre à ses pieds. Nous serons à côté de lui. Pourtant, aujourd'hui, nous devons prendre une place assujettie, pratiquement. Nous devons lui donner la place d'autorité comme Seigneur. Nous devons lui donner toute autorité. Et dans ce sens-là, nous devons moralement, pratiquement, être assujettis. Mais dans le monde à venir, nous ne serons pas à ses pieds. Nous serons à côté de lui. Maintenant, le verset 9. J'aimerais souligner que le verset 9 pourrait être le titre de cet épître. Nous voyons Jésus. Nous voyons Jésus. Ça, c'est le privilège du chrétien. Nous ne voyons pas encore toutes choses assujetties. Ça, c'est le monde à venir. Pourtant, nous voyons quelque chose. Nous voyons quelqu'un. Nous voyons une personne qui est plus grand que tout le monde à venir. Parce que tout le monde à venir sera assujetti à lui. Mais nous voyons quelqu'un qui est plus grand que ce monde à venir, c'est le Seigneur lui-même. Et on verra la prochaine fois, Dieu voulant, dans 7 points, comment nous sommes liés à lui, comment il y a un lien entre lui et nous. Et je mentionne maintenant une des raisons pour laquelle le Seigneur Jésus a pris la place d'un homme, était pour pouvoir mourir, mais c'était ensuite pour nous avoir avec lui. Et on verra donc sept liens entre nous et lui la prochaine fois. Mais je reviens maintenant à cette expression, nous voyons Jésus. Jésus, vous rappelez, Jéhovah, Yahvé, sauve. Là, nous voyons encore ce mystère de sa personne. Dieu, Jéhovah, sauve. Il était aussi comme bébé qu'il a reçu ce nom. Donc, son humanité, sa dignité, vont ensemble dans ce nom précieux, comme dans Philippiens 2 aussi. Mais nous voyons Jésus. Le nom Jésus revient 9 fois ici. L'auteur, et j'aimerais souligner cela, il faut réaliser que les Juifs ont méprisé ce nom. Et il y avait des temps où, si le nom Jésus était mentionné à un Juif, il serait choqué, insulté. Il ferait toutes sortes de choses pour montrer son indignation. Mais pour nous, c'est un nom d'honneur. Pour nous, c'est un nom très spécial. Ce nom Jésus revient pour cela 9 foi dans cette épître. Pour souligner la grandeur, ce Jésus de Nazareth que les Juifs avaient rejeté, que les Romains ont crucifié à la croix, et nous sommes aussi coupables comme êtres humains de tout cela. Ce Jésus est maintenant couronné de gloire et d'honneur. Ce Jésus est celui qui va régner sur le monde à venir. Ce Jésus est présenté dans toute ses splendeurs dans cette épître. Et le croyant, nous, c'est de nouveau Paul, l'auteur, avec les croyants, nous voyons. Vous voyez, c'est notre privilège, c'est le privilège chrétien. Les chrétiens peuvent dire cela. Nous voyons, par la foi, évidemment. Non pas par l'œil physique, c'est par la foi que nous voyons Jésus. Et ainsi, on peut dire, l'Épître aux Hébreux fait le ciel ouvert pour nous montrer Christ. Le ciel est ouvert, pourquoi? Parce qu'il est monté. Dans Luc 24, c'est beau de voir comment le Seigneur a ouvert les Écritures, comment il a ouvert le cœur de ses deux disciples d'Emmaüs. Et à la fin du chapitre 24, nous voyons comment le ciel est ouvert. Et nous voyons Christ maintenant dans un ciel ouvert. Il y a donc une communication maintenant entre lui dans la gloire et nous sur la terre. Comme il y aura une communication entre les cieux et la terre dans le monde à venir, nous avons déjà cette communication et cette communion. Et toutes les bénédictions du monde à venir sont déjà notre privilège. Vous voyez, toutes les bénédictions que le monde à venir va caractériser, nous comme chrétiens, nous avons déjà ces bénédictions parce que nous sommes identifiés avec Christ. Comme on verra la prochaine fois, c'est sept liens d'une façon très spéciale. Nous sommes liés à lui. Et Dieu l'a fait donc un peu moindre que les anges. Pourquoi? Verset 9. Pourquoi Dieu l'a fait un peu moindre que les anges? À cause de la passion de la mort. Les anges ne peuvent pas mourir. Et maintenant, j'aimerais souligner un point. J'ai dit comme être humain, le Seigneur Jésus prend déjà une place au-dessous des anges. Mais Colossiens 1 nous montre, lorsque le Seigneur Jésus entre dans sa propre création, il doit être le premier. Donc, moralement, à ce moment-là, lorsqu'il est entré dans sa création, même comme petit bébé dans la crèche, il était au-dessus des anges. Il ne faut pas oublier ça. Parce que c'était le Créateur en même temps. Il était au-dessus des anges. Donc, c'est peut-être un paradoxe. L'ordre de la création, l'humanité est au-dessous des anges. Mais lorsque le Seigneur Jésus prend la place d'un homme, il est le Créateur en même temps. Donc il faut qu'il soit plus élevé que les anges, parce qu'il est leur Créateur. Pourtant, ici nous voyons une étape où le Seigneur Jésus a vraiment pris une place plus basse que les anges. Je répète, Colossiens 1 nous montre qu'il était même là comme homme au-dessus des anges, parce qu'il est leur Créateur. Mais ici nous voyons qu'il a pris une place au-dessous des anges, plus bas que les anges. Pourquoi? À cause de la passion de la mort. Les anges ne peuvent pas mourir. Mais déjà, Jean le baptiseur avait dit dans Jean 1, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Pour cela, il fallait qu'il goûte la mort. Comme le verset 9 le dit, il goûta la mort pour tout. C'est là l'œuvre qu'il a accomplie. Il a établi la base pour tout. Mais je veux revenir encore cette expression, la passion de la mort. Qui peut sonder les passions, les souffrances du Seigneur Jésus? Cela nous est impossible vraiment de pénétrer. Mais Dieu veut que nous contemplions les souffrances de l'agneau de Dieu. Isaïe 53, psaume 22, d'autres passages, et que nous comprenions qu'il a passé à travers tout cela aussi pour nous. Mais d'abord pour la gloire de Dieu. Vous voyez, lorsqu'il a pris la place comme sacrifice, c'était pour la gloire de Dieu. Et ainsi, Dieu l'a couronné de gloire et d'honneur, et c'est encore pour la gloire de Dieu. C'est Il faut réaliser cela. Tout ce que le Seigneur Jésus est, tout ce qu'il fait, est toujours pour la gloire de Dieu. Et Dieu l'a couronné de gloire et d'honneur. C'est un Dieu satisfait. C'est un Dieu qui a été glorifié par le Seigneur Jésus. Un homme a glorifié Dieu. Et Dieu dit, maintenant je veux glorifier cet homme. Vous voyez le point? Un homme a glorifié Dieu. Ainsi, Dieu a glorifié l'homme, Christ Jésus. D'abord, en le sortant, en le faisant sortir du tombeau, le jour de la résurrection. Ensuite, Dieu l'a honoré. Il l'a glorifié en lui donnant cette place d'honneur dans la gloire. Et Dieu va le glorifier dans le monde à venir encore. Dieu le glorifie parce qu'il a glorifié Dieu. Un homme a glorifié Dieu, maintenant Dieu glorifie un homme. En sorte que par la grâce de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Et on va revenir à la grâce de Dieu plusieurs fois, Dieu voulant, si on aura d'autres occasions. La grâce de Dieu, c'est un thème magnifique dans le Nouveau Testament. Dieu est appelé le Dieu de toute grâce, Saint Pierre. Et je pense que le mot grâce revient 8 fois dans cette épître. Au moins dans 7 passages, mais dans 4 versets 16, c'est répété 2 fois, le mot grâce. Donc, encore un mot caractéristique pour cette épître, la grâce de Dieu. C'est par la grâce de Dieu qu'il a fait tout ça. J'ai dit déjà, c'était pour la gloire de Dieu, mais c'était aussi par la grâce de Dieu. Il goûta la mort. Qui a goûté la mort comme nous? Le psaume 22, ce matin on avait à l'offre le psaume 69, le psaume 102, nous voyons des détails, comment le Seigneur Jésus a goûté la mort. Mais, pas seulement cela, il a goûté la mort pour tout. C'est le but. Le but est donné en même temps. Je pense à un verset qui est très beau, 2 Corinthiens 5, il a souffert pour tout, mais ça veut dire aussi pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui pour eux est mort et a été ressuscité. La pensée est là que le Seigneur Jésus est mort pour tous et pour tout. Mais là, il ne faut pas avoir de fausses conclusions. Ça ne veut pas dire que le Seigneur Jésus est mort aussi la mort des pécheurs perdus qui sont dans l'enfer. Ici, c'est pour souligner la mort dans son efficacité pour tout. Donc ainsi, il a mis la base, comme j'ai dit tantôt, Jean 1, verset 29, pour que le péché soit ôté du monde. La base a été établie par sa mort pour tout. Si on traduit pour tous, ça veut dire évidemment pour tous ceux qui croient. C'est la qualification, pour tous ceux qui croient. Mais si on lit pour tous en général, ce serait pour souligner que la grâce se montre maintenant envers tous. Et dans ce sens-là, on a 1 Timothée 2, pour tous. Cette œuvre de rédemption a une valeur pour tous, qui s'adresse à tous. Mais comme substitut, c'est limité à ceux qui croient. C'est ça un point qu'on va toujours rappeler. Donc, ces versets nous soulignent les souffrances du Seigneur Jésus et la gloire à venir. Comme Pierre le dit, le Seigneur l'a dit lui-même, ne fallait-il pas que le Fils de l'homme, encore, le Fils de l'homme, souffre et ainsi entre dans sa gloire. Les souffrances du Fils de l'homme et sa gloire vont ensemble. Et 1 Pierre 1 nous dit que même les prophètes avaient parlé des souffrances du Seigneur Jésus et les gloires à venir, les gloires et les souffrances, parce que les souffrances sont données de plusieurs, ont plusieurs aspects. Qui peut sonder tous les aspects des souffrances du Seigneur Jésus? Et ainsi, qui peut sonder toutes les gloires qui sont le résultat de ces souffrances? Pour nous, c'est encore la même chose. Aujourd'hui, les souffrances, ensuite, la gloire. c'est pour nous la même, le même principe. Et ce n'est pas maintenant le thème, mais c'est une application qu'on peut tirer de cela. Aujourd'hui, nous sommes identifiés aussi avec un Christ qui a souffert. La grande différence, si nous n'avons pas aux souffrances de Christ, ce n'est pas l'aspect propitiatoire, ce n'est pas l'aspect de l'expiation. Ça, c'est l'œuvre que Christ a accomplie, et seulement lui qui a pu accomplir cela. Mais si nous nous identifions avec les souffrances de Christ, c'est comme ces témoins qui souffrent parce que le témoignage est en souffrance. Vous voyez, dans ce sens-là, on voit souvent dans 1 Pierre que les chrétiens souffrent parce qu'ils s'identifient avec un témoignage, le témoignage de Dieu. Le témoignage de Dieu est en souffrance et souffre aujourd'hui. Et dans ce sens-là, nous pouvons goûter aussi des souffrances, mais pas dans le sens qu'on voit ici des souffrances l'œuvre expiatoire. Dans ce sens-là, c'est uniquement limité à Christ. Et il goûta la mort pour tous. Ça, c'est donc cet aspect-là. Il le dit aussi, Marc 10, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour donner sa vie en rançon pour plusieurs. Là, il dit pas pour tous, parce que là, c'est la pensée du substitut. Ça, c'est pour plusieurs. Si c'est pour tous, c'est pour montrer que l'œuvre est efficace de la part de Dieu, pour que tous puissent venir.